RFI.
Alors, on dit quoi ?
Coucou, c'est Diara. C'est reparti pour 50 minutes de notre émission. Alors, on dit quoi ? Ce samedi, place au tourisme local, direction Madagascar, qui nous offre un bel exemple de ce nouvel engouement. Encourager les jeunes malgaches à voyager et découvrir leur pays, c'est le défi de taille qu'Anita et ses amis ont décidé de relever en créant une plateforme de planification de voyage. Je n'en dis pas plus. Au programme aussi, une rencontre avec une jeune Camerounaise, Marie-Joséphine Paco, qui tient un blog où elle nous fait découvrir les lieux incontournables des quatre coins du Cameroun. Et bien sûr, vous me connaissez, donc on écoutera de la musique et la rubrique culture d'Anna, rubrique qui reviendra sur la promotion, non pas du tourisme, mais de la langue soninké. Voilà, voilà, je vous propose d'y aller. Angata, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Jaranjai.
Allez, c'est l'été et on a donc eu envie de vous faire voyager aujourd'hui, mais pas un voyage n'importe où. Alors on dit quoi veut vous montrer qu'il est possible de s'enjailler à deux pas de chez soi. Si vous êtes Dakaroa, eh bien échappez-vous un week-end sur la petite côte. Et si vous êtes sud-africain en plein été austral, je vous recommande les plages du Cap et de Durban qui sont sublimes. Focus donc sur le tourisme local avec Lena qui est chargée de communication de la plateforme numérique Visiter l'Afrique qui, comme son nom l'indique, incite les voyageurs à découvrir notre beau continent. Bonjour Lena.
Bonjour.
Également avec nous Xavier Owana qui est fondateur de Black Voyageurs, une communauté africaine qui poste leurs photos, de belles photos de voyage sur les réseaux sociaux. Bonjour Xavier.
Bonjour, ça va?
Et dernière invitée, Georges Attineau, journaliste, photographe et blogueur du site Amadar où vous y partagez une autre vision du Sahel. Bonjour Georges.
Bonjour.
Mais d'abord, reportage, Madagascar ne fait pas forcément rêver les malgaches. Pourtant, avec ses baobabs, les mûriens, baleines, forêts de pierre ou d'argile, la grande île dispose d'atouts exceptionnels et uniques au monde. Si les touristes étrangers sont de moins en moins nombreux, les professionnels du tourisme remarquent une augmentation des touristes résidents, liée notamment à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Un engouement suscité aussi chez les jeunes, comme nous l'explique ce sujet de Tiassao Samantha, notre correspondante à Antananarivo.
Encourager les jeunes malgaches à voyager et découvrir leur pays, voilà un défi de taille pour les acteurs dans le domaine du tourisme à Madagascar. Voyager à Madagascar n'est pas à la portée du pouvoir d'achat de la majorité de la population malgache, que ce soit à l'étranger ou en local. Pour les jeunes malgaches, ce dernier demeure encore un luxe. En effet, les coûts du séjour, de l'hébergement, de la restauration, des visites et du voyage en lui-même sont astronomiques pour des étudiants qui viennent de finir leur année de master ou pour des jeunes qui sont dans leurs trois premières années d'exercice professionnel. Depuis quelques années, des agences et tour opérateurs se sont créés justement pour proposer des services plus accessibles aux touristes locaux et permettre aux jeunes malgaches de découvrir les trésors de leur terre. C'est le cas d'Anita et de ses amis qui ont décidé de créer une plateforme de planification de voyage en ligne. Cette plateforme, qui s'appelle ITET, propose des voyages accessibles au pouvoir d'achat des malgaches. Anita Voulatsar, cofondatrice, nous raconte comment est née l'initiative ITET.
L'idée était venue de notre envie de vouloir faire profiter aux Malgaches de découvrir Madagascar à des prix réduits. Ce qu'il y a à Madagascar est que les tour opérateurs classiques ont tendance à se focaliser seulement sur les touristes internationaux, c'est-à-dire les tarifs proposés par les touristes classiques ne sont pas à la portée des pouvoirs d'achat des Malgaches. D'où donc la création de ITET, c'est-à-dire promouvoir le tourisme à Madagascar pour les Malgaches, effectivement, à bas prix. Actuellement, nous sommes 5, si nous étions 9 pendant la création.
Nos 5 jeunes malgaches essaient donc, à travers leur plateforme, de faire la promotion du tourisme domestique à Madagascar, mais aussi de faire du co-tourisme. Un concept assez nouveau à Madagascar, mais qui intéresse beaucoup les amateurs de voyage et d'aventure, notamment les jeunes. Il s'agit de voyager avec des inconnus pour nouer des liens et vivre des expériences ensemble. La plateforme conçoit les voyages en fonction de la disponibilité des clients. Elle propose aussi des packs voyages avec transport, hébergement, restauration, visite de sites à des prix accessibles. des offres que les jeunes apprécient particulièrement.
Actuellement, nous avons remarqué que les jeunes ont pu mettre en avant leur envie de vouloir découvrir Madagascar, de vouloir voyager tout simplement, s'épanouir, profiter de leur jeunesse. Même si en étant âgé, on peut quand même voyager, mais on a senti ce besoin, cette envie de la part des jeunes malgaches qui ont envie de découvrir leur beau pays.
Si Anita et ses coéquipiers ont décidé de proposer une plateforme de planification de voyage en ligne pour faciliter les options pour les voyageurs passionnés, d'autres jeunes malgaches préfèrent partir en terres inconnues, sac au dos, en quête de sensations fortes. C'est le cas de Mejki Faline, originaire d'Antananarivo, capitale de Madagascar, qui a décidé de faire un véritable Madared du haut de ses 23 ans. Pour cette jeune fille, le Grand Sud de Madagascar fait partie de ses destinations coup de cœur.
Pour moi, le voyage n'est pas qu'une activité de jouissance. À part le fait que cela permet de se détendre et d'évacuer nos stress, pour moi, c'est juste la plus belle manière d'apprendre la vie, de découvrir de nouvelles choses, d'expérimenter et faire de nouvelles rencontres. Mon plus gros coup de cœur, c'est la partie sud de Madagascar. En fait, ces zones-là, c'est vraiment une zone, une partie mystérieuse pour moi parce que d'un kilomètre d'avant, tu peux découvrir un endroit tout défraîchi, sec, déserté de tout. Et le kilomètre d'après, tu peux voir une zone toute humide, des jolies verdures, une ambiance vraiment très, très tropicale. Voilà.
Ifalina trouve que l'intérêt des jeunes malgaches pour le tourisme local ne cesse de s'accroître, même si cela est encore minime par rapport à l'envie des jeunes malgaches de voyager dans les pays étrangers.
Il fut un temps où j'étais assez attristée de voir la situation touristique à Madagascar parce que j'ai remarqué à quel point on était tellement désintéressés par notre propre pays. On faisait des projections de voyage seulement qu'à destination étrangère. À cet temps-ci, j'ai vu la tendance s'inverser parce que actuellement, on est plus intéressé par notre propre pays. Du coup, on est plus nombreux à être incités à faire le tour local. J'ai beaucoup de l'espoir vis-à-vis du tourisme malgache si on continue dans ce sens-là.
Cet avancement de l'intérêt des jeunes malgaches pour le voyage en local est renforcé par Hussein, lui aussi passionné de voyage, originaire de la province de Touamassa.
Les intérêts des jeunes pour le voyage, premièrement, pour s'amuser avec les amis, et aussi pour voir des lieux nouvelles ou aussi pour faire le voyage d'études, c'est-à-dire pour faire la recherche et de visiter aussi des entreprises. On peut voir beaucoup de choses et découvrir des endroits et de voir des animaux sauvages ou escalader la montagne.
Voyager en local, voilà un rêve que la plupart des jeunes malgaches ne caressaient nullement auparavant. Trop influencés par les images des paysages des pays européens, américains ou asiatiques et peu informés sur leur propre patrimoine, les jeunes malgaches n'avaient qu'une seule envie, voyager à l'étranger. Mais grâce à des jeunes comme Anita, Ifaline ou encore Hussein, cette donne est petit à petit en train de changer.
Donne qui change et on en parle justement aujourd'hui dans Alors on dit quoi. Je vais recueillir vos impressions. Léna, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage?
C'est justement ce qui m'a plu, c'est cette volonté de ces Africains en fait de commencer par découvrir leur pays. Je suis afrodescendante certes, je vis en Europe, mais j'ai la même volonté de me savoir que ça peut nous, on se connaît pas, Anita et je me souviens plus des noms, mais qu'on a cette même volonté de découvrir notre continent et commencer par son propre pays. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est aussi le fait que finalement ils ne se retournent plus vers les pays asiatiques, européens et américains, et ils veulent commencer par chez eux en fait, et je pense que c'est une bonne chose. Pour qu'il faut commencer chez soi pour aller voir ailleurs pour pouvoir comparer et avoir une bonne idée d'ensemble en tout cas.
Est-ce que vous, avant de voyager sur le continent, vous étiez vous aussi attirée par d'autres pays? Vous vivez en Europe, mais par les États-Unis, je sais pas, l'Asie?
Par l'Amérique latine, c'est encore un de mes grands rêves, et par l'Asie aussi, et en fait par le monde entier, mais je suis plus attirée par mon continent, aujourd'hui en tout cas par mon continent d'origine, parce que c'est le mien, parce que j'ai envie de le connaître, parce que peut-être aussi je suis une hipster bobo, j'en sais rien, et que c'est encore un peu secret de voyager en Afrique, donc je me la pète et en allant moi au Kenya pendant que d'autres vont, je sais pas, en
New York, à Washington. Et vous, Xavier, qu'avez-vous retenu de ce reportage?
Pas mal de choses. Déjà, la volonté de faire découvrir son pays par des gens du pays. Je pense qu'il y a personne d'autre qui peut parler de son pays que les autochtones. Donc ça, déjà, je trouve ça formidable. Il y a un autre point que je voulais soulever, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'Africains. Tu parlais de fait d'être afro-descendants en Europe. Ce qu'on soulève souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'afro-descendants en Europe qui connaissent que leur pays d'origine en Afrique, mais qui connaissent pas le pays d'à côté en Afrique. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est pour nous assez stupéfiant, de se dire on a plus envie d'aller en Espagne, aux États-Unis, mais quand les parents viennent du Sénégal, ben c'est normal d'aller découvrir le Sénégal, mais on peut aller au Mali, on peut aller en Côte d'Ivoire, on peut aller au Cameroun, et il y a assez peu d'afro-descendants qui le font. Ça, c'est assez dommage, en fait. Donc si nous, on n'est pas capable de le faire, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous, en fait.
Vous avez déjà été à Madagascar?
Oui, bien sûr. Je suis déjà allé à Tana. J'ai habité à l'île Maurice juste à côté pendant un an, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar.
Donc une belle découverte pour vous également.
C'est pas la plus jolie des villes, mais c'était quand même une très belle, c'était une très belle découverte parce que le pays est magnifique.
Alors on a tous des globe-trotteurs ici. On parlera de vos voyages juste avant. Je recueille quand même l'avis de notre Georges. Que pensez-vous de ce reportage, Georges?
Franchement, je trouve que c'est très bien parce que ce que moi j'ai apprécié surtout, c'est le fait de voyager son propre pays, c'est déjà se trouver beau en fait. C'est s'apprécier, c'est se regarder autrement en fait. Donc déjà là, ça amène, je pense, les habitants de ce pays à changer de regard sur leur propre pays et déjà là à sortir du fait que ouais, c'est toujours magnifique ailleurs en fait, mais aussi chez toi c'est magnifique, c'est beau à côté. Vas-y, va voir ceux qui sont là-bas, va visiter, regarde leur culture, parce que nous avons des fois nous avons des pays qui sont en Afrique qui sont des fois tellement grand, vaste, que des fois c'est des pays continents, des fois je me dis, parce que tellement les gens ils sont différents, ils ont des cultures différentes, ils ont des langues différentes, donc du coup c'est se trouver beau aussi, c'est s'apprécier. Je pense au-delà de voyager aussi, c'est cela que moi j'ai trouvé important aussi.
Et les voyages en sac à dos dont parlait Anita dans le reportage, ça vous parle à vous?
Moi ça me parle personnellement parce que j'ai un ami de voyage en fait, on programme des voyages ensemble, puis on y va quoi, on y va comme ça, sac à dos, tranquille, on ne connaît personne et ça me parle beaucoup aussi.
Et les voyages dont on parle, vous êtes malien, est-ce que vous avez commencé par votre pays d'origine?
Moi j'ai commencé par mon pays d'origine malgré moi en fait, parce que quand j'étais petit au Mali, je faisais partie d'une organisation où on voyageait de ville en ville au Mali pendant les vacances pour danser en fait. Donc je faisais partie de ce groupe en fait. Du coup j'ai visité le Mali comme ça. Et ensuite après, quand il y a eu les conflits, la guerre au Mali et tout ça, moi personnellement je me suis rendu compte du décalage que les populations avaient, tu vois, genre ceux qui habitent par exemple au sud, ils voyaient ceux du nord autrement, ceux qui sont au nord disaient ah ouais, les sudistes sont comme ça,
finalement.
Oui, c'est pas, finalement moi je me suis rendu compte que les Maliens ils ne se connaissaient pas, et en plus de cela on a commencé à connaître des villes. Parce qu'il y a eu des attaques là-bas, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de villes tristement célèbres, alors que ce sont des villes qui sont magnifiques. Donc, du coup...
Parler de Mopti, par exemple.
Ouais, Mopti, par exemple, qui, aujourd'hui, quand on parle de ces villes, de Tombouctou, on pense plus à la peur des attaques qui se passent là-bas qu'aux choses merveilleuses qui s'y trouvent. Donc, du coup, c'est... le tourisme local aussi dans ces zones-là, ça change le regard qu'on a sur ces villes-là, ça change aussi la vie des gens qui y habitent, parce que on parle d'autres choses.
Léna, vous êtes aussi une grande voyageuse. Combien de pays avez-vous visité, tiens?
Je pense que je suis bien sur une petite trentaine, mais petite, et que j'ai bien fait toute l'Europe, et que pour l'Afrique, pour le moment, je suis un baby. J'en ai fait 5, magnifique.
Vous avez commencé par quel pays?
Bah, j'ai pas eu le choix. J'ai commencé par le Cameroun parce que je suis née au Cameroun. Mais, et ça me fait penser à ce que quelque chose que vous, que tous les deux vous disiez tout à l'heure, les garçons, c'est que, oui, quand on est afrodescendant, on découvre en premier son pays. Déjà, quand on a la chance, parce que je connais plein d'afrodescendants qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. Mais aussi, c'est très compliqué. En tant qu'afrodescendant, il y a ce truc, généralement, quand on va au pays, on passe énormément de temps chez la famille, en fait. C'est, allez, je vais manger chez ta tatelle, etc. Et on ne voit rien du pays. Et il faut se prendre soi-même, décider que, bah, écoutez, les gars, là, cette fois-ci, j'arrive, mais il n'y a pas de lundi, je vais manger chez ta tatelle et mardi, chez tonton tel. C'est, je prends mon sac à dos et je vais voir les shit des coms. C'est des choses que j'ai dû faire. Donc, j'ai commencé par le Cameroun et ensuite, bah, ça a été le Sénégal, l'Éthiopie, le Rwanda, le Kenya. Et là, je pense que d'ici un mois, j'ai quelques vacances, je vais faire l'Afrique du Nord, pourquoi pas. C'est assez accessible de Paris. Donc.
Vous donnez envie de prendre un avion de suite, là. Alors, et vous, Xavier, alors vous aussi, vous êtes Camerounais, vous avez sillonné le Cameroun tout entier. Est-ce que, si je vous parle du parc de la Bénoué, de la basilique de, je ne sais pas si je vais bien le dire, Mviolier?
Mvolier,
de Bimbia. Quelle partie du pays vous a le plus marqué?
Donc c'est difficile de répondre à cette question. Typiquement là, j'ai de grandes ambitions. Je vais être confronté à la réalité des faits. Est-ce que ça va être physiquement possible de se déplacer, aller dans le nord comme je voudrais le faire? Je ne sais pas, mais on va essayer en tout cas. Et pareil pour la partie anglophone du pays où il y a pas mal de problèmes en ce moment. Les régions que je connais beaucoup moins bien et que j'aimerais découvrir en fait.
Aujourd'hui encore, vous continuez de découvrir votre pays.
Exactement. Ouais.
Et vous avez fondé Black Voyageur. Alors, qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce nom? Je sais que c'est une belle plateforme. Vous regardez sur Instagram notamment de très belles photos, des gens cool, des gens souriants, des jeunes bien sûr. Pourrait-on dire finalement quel est l'objectif de cette plateforme?
D'accord. Bah, en fait, c'est assez simple. Black Voyageur, c'est né d'un constat en fait. C'est que... tout comme moi, il y a beaucoup de gens d'origine africaine, ou enfin afro-descendants, ou caribéens, qui voyagent. On n'en parle pas beaucoup, en fait. Et on voulait justement mettre la lumière justement sur ces voyageurs afro-descendants, africains ou caribéens, qui parcourent le monde et qui font des choses magnifiques, mais dont on parle jamais, en fait. Quand on regarde des magazines de voyage, ou des blogs, ou des, ben, en fait, on voit toujours un stéréotype de qu'est-ce que c'est un voyageur. Donc souvent, on voit une blonde sur une plage au Sénégal, ou je sais pas, en Martinique, et en fait on pense jamais aux afro-descendants qui eux aussi voyagent, et l'image qu'on a de l'Africain qui se déplace, ben aujourd'hui elle est plutôt négative. Donc ça c'était d'un côté. De l'autre côté, il y a des pays et des régions dans le monde où il n'y a pas énormément de noirs, on va dire, et ils sont aussi vus d'une manière, des fois soit on est curieux, je sais pas, on va en Asie par exemple, on vous touche les cheveux,
on vous touche la peau,
qu'est-ce que c'est, ça va partir. Et on voulait en fait que dans ces régions-là aussi où il n'y a pas beaucoup d'Africains, ben on change un peu leur image en disant que ben on est des gens tout à fait normaux. On aime bien aussi découvrir le monde. Regardez-nous aussi comme on est, et pas juste à travers le prisme de ce qu'on voit à la télé ou des clips. Et voilà, on n'est pas tous, tout le monde n'est pas un noir américain qu'on voit au cinéma. Et le dernier point, c'est aussi augmenter la représentativité en fait et la représentation des touristes et des voyageurs afro-descendants dans les médias et dans l'industrie du tourisme.
Si je peux me permettre, je trouve aussi que votre page, elle apporte une chose que peut-être la nôtre, et sûrement la nôtre apporte aussi, c'est le fait de dire, donner envie à juste des afro-descendants, des afro-caribéens, de dire, bah, il est en Malaisie, bah, c'est possible pour moi aussi. C'est
exactement.
Pas que mes copines blondes ou d'origine asiatique qui a le droit d'aller en Asie, et je trouve que ça, c'est ultra important.
Exactement.
Et encore plus dans une, pour votre plateforme, parce qu'elle est plus mondiale, alors que la nôtre est concentrée sur la continent. Ouais.
Alors, on dit quoi? Jaranjay.
Vous écoutez RFI et spécifiquement l'émission Alors on dit quoi? Une émission qui donne la parole à la jeunesse africaine, et on écoute tout de suite Lisette. Bonjour Lisette.
Bonjour.
Alors vous êtes ivoirienne, vous travaillez dans le domaine de l'édition et vous êtes aussi blogueuse d'Ivo Nomade, où avec votre fiancé vous partagez vos aventures en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Vous avez même été élue meilleure blog de Côte d'Ivoire pour l'année 2018 par l'agence Ivoire. Quelle est la recette du succès de ce blog?
Je pense que le blog, en fait, venait à répondre à un véritable problème, c'est que ivonomane, en fait, qui signifie ivoirien et voyageur. Notre problématique, c'était de pouvoir donner aux personnes, en fait, des infos pratiques pour organiser leur voyage. Donc, vu qu'on aimait beaucoup voyager, on s'est dit, on va tout centraliser sur une plateforme. Du coup, si quelqu'un veut voyager, veut découvrir soit la Côte d'Ivoire ou bien d'autres pays, il pourra retrouver toutes les informations. Et je pense que c'est ce qui a un peu fait le succès de ce blog, parce que tout le monde s'est retrouvé dedans et tout le monde venait trouver des réponses en fait à ces questions.
Un blog pratique. Et quel message vous souhaitez véhiculer à travers Ivonomade?
Déjà que l'Afrique est belle et mérite d'être citée. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de dire au maximum à chaque fois qu'on découvre des endroits, à chaque fois qu'on partage des choses. On veut vraiment que les gens puissent se déplacer, qu'ils ne se disent pas que le fait de voyager, c'est réservé uniquement à un groupe de personnes. Ben, tout le monde peut le faire. Voilà.
Merci beaucoup pour cet appel, Lisette. Et bonjour à nos auditeurs de Côte d'Ivoire. On a également en ligne Sandy. Sandy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 27 ans et vous êtes une vraie voyageuse. Vous voyagez beaucoup et vous croisez de plus en plus de voyageurs locaux. Où est-ce que vous avez senti le plus ce phénomène?
Alors justement, ce que je constatais avant quand j'allais dans les pays africains, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est que j'étais souvent la seule touriste, afrodescendante ou non, dans les lieux touristiques, dans les beaux restaurants, sur les plages, etc. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est quand je suis allée au Kenya, où j'ai vu dans beaucoup d'endroits, que ce soit dans les forêts, dans les cascades, dans les musées, etc., beaucoup de touristes qui faisaient en fait partie des locaux, des Kenyans. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose d'important. C'est ce qu'on a vu aussi au début de l'émission quand on a parlé de Madagascar. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pousser. Il faut donner envie, comme avec la plateforme Visiter l'Afrique, aux gens de venir visiter le continent. Et il faut aussi donner envie aux locaux de découvrir les richesses de leur pays.
Parlons justement de la plateforme Visiter l'Afrique. Oui. Présentons-la rapidement, peut-être, Léna.
Visiter l'Afrique, ça naît en 2014. C'est Jeanne Audrey Ngako qui crée cette plateforme. C'est juste une afrodescendante, une africaine, a envie de partager ses voyages sur le continent. Donc, elle crée un blog où elle écrit des articles, des retours d'expérience. Je pense qu'à la base, c'est pour ses amis, en tout cas pour le diffuser, pour casser cette image de le petit enfant africain avec le gros ventre et la mouche et tu vas en Afrique, t'auras pas Internet, où je pense vraiment que c'est pour ça.
La caricature de l'Afrique
où on ne peut pas aller. Et une page Instagram, et ça suscite de l'intérêt. Ça suscite de l'intérêt des gens tout simplement qui passent et qui vont poser un like ou un commentaire ou envoyer leur photo. Ça suscite des intérêts d'autres personnes comme moi, ou qui à l'époque, je suis étudiante, je suis afro-descendante. C'est la première fois de ma vie que je vois des photos de certaines parties du continent. Je n'avais même pas idée, et c'est ridicule parce que j'ai 20 ans, et je n'ai même pas idée que ces endroits existent en Afrique. Donc je m'énerve sur mon téléphone, je lui tape un message, écoute, je sais faire ci, je sais faire ça, et blablabla, et j'aimerais en être. Dans 3 jours après, elle me donne un rendez-vous. Ça faisait 1 an que la plateforme existait, il y avait d'autres filles de l'équipe, et ensuite, il y a eu une levée de fonds pour créer un vrai site internet plus ergonomique. On a fait que gagner des followers, j'ai envie de dire ça comme ça. Motiver les gens pour nous envoyer des articles, des photos, sans arrêt, créer des événements. Et on espère que ça continuera pendant encore 150 ans.
Ça fonctionne visiblement, oui. Sandy, ça vous a donné envie de voyager, non?
C'est exactement, totalement le type de plateforme qui m'a donné envie de voyager.
On est deux.
je pense que c'est vraiment une des premières plateformes qui a donné goût aux gens aux personnes d'aller en Afrique. Et moi, je l'ai fait avec le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je vais au Burkina à la fin du mois. Et c'est cette idée aussi, parce que justement, là, au début du reportage, on a parlé d'écotourisme. C'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'il y a la partie où on dit que les gens n'ont pas forcément envie d'aller en Afrique, mais il y a aussi un autre cliché qui est véhiculé, où quand on rencontre des personnes qui vont en Afrique, c'est souvent le même tourisme. C'est le safari, c'est la mission humanitaire, c'est les plages aux Seychelles. Et du coup, ça occulte complètement toutes les autres richesses qu'on peut trouver sur le continent africain. On parlait tout à l'heure d'écotourisme, mais il y a peu d'endroits dans le monde où on peut très facilement visiter, des cultures de café, des cultures de bananes, des sources chaudes. de trouver des forêts immenses en plein cœur de capitale, comme par exemple à Abidjan avec la forêt Banco. Donc voilà, je pense qu'il y a des tourismes, il y a le tourisme culturel aussi, aller par exemple au FESPACO, festival de cinéma au Burkina Faso. Donc il y a toutes ces choses aussi qu'on peut mettre en avant et qui va pouvoir faire venir aussi un autre type de voyageurs sur le continent.
Merci beaucoup Sandy.
Avec plaisir.
Alors, on va prendre en ligne Marilyn. Marilyn, vous avez fondé avec votre mari Trip in Africa. Bonjour Marilyn.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous donner un exemple d'activité que propose le site Trip in Africa?
Alors, on essaie d'avoir des activités variées et diverses, mais par exemple, on peut visiter Dakar avec un guide qui s'appelle Doudou, qui a son atelier de menuiserie dans le quartier de Rebeuf. Et qui fait visiter le centre-ville de Dakar avec les éléments de son quotidien. Une visite complètement inédite qu'on n'aurait pas en visitant la ville seule.
Donc vous faites participer les locaux dans vos activités que vous proposez, visite d'un site par exemple spécifique, visite d'une ville, des ateliers également.
Oui, tout à fait. Donc dans les activités qu'on essaie de répertorier sur le site, il y en a à peu près 200 actuellement. On a notamment des ateliers culinaires en Côte d'Ivoire, des visites d'architecture avec un architecte local qui peut expliquer vraiment le côté histoire de la ville. Donc on est vraiment dans la volonté que les locaux fassent visiter leur façon
pays,
dont ils voient la ville.
Et comment justement votre site incite les locaux à découvrir leur pays?
Alors ce qu'on propose donc on met en relation les voyageurs avec des guides ou des activités. Le site s'adresse aux voyageurs d'une manière générale, mais on a vraiment un défi de faire adhérer les locaux. Donc on leur met à disposition l'information de ce qui est possible de faire dans le pays. On propose aussi dans une gamme de prix abordable. Et donc de plus en plus, on a des locaux qui participent aux activités qu'ils font chaque semaine.
Merci beaucoup Marilyn.
Merci.
Georges, vous parliez tout à l'heure, vous, des locaux que vous rencontrez, c'est quelque chose qui vous tient notamment à cœur. Et dans votre blog, vous nous faites visiter l'ensemble du Sahel. Oui. Pourquoi cette zone?
Cette zone parce que déjà, je suis originaire de cette zone. Et aussi parce que on parlait autrement de cette zone, en fait. Il y avait l'actualité concernant ces zones. Quand on tapait Sahel sur le net, tout ce qui venait, c'était des attaques par-ci, par-là. Nous aussi, je vivais là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai de la famille là-bas. Je sais que ces personnes, ils font autre chose, mais on n'entend jamais parler de ces choses-là. On s'est dit,
Mali, Niger, Tchad, tout ça, c'est vraiment
C'est Mauritanie, Burkina Faso, tout ça. Donc, heureusement, on est parti en Mauritanie avec un ami, Souleymane Ganara. On est parti et à la gare, comme ça, par hasard, on a croisé un monsieur. Il nous a dit, c'est bien, vous venez d'où et tout? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Ouagadougou, en Mauritanie? On dit, écoute, on est venu visiter, on va faire le train du désert, qui est le train le plus long au monde. Et il dit, écoute, j'ai deux chambres chez moi et tout, venez. On a été chez lui, on a dormi chez lui. Ensuite, la nuit, on est parti manger avec sa femme, ses enfants, tout. Il nous a parlé de son pays. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire si on était parti comme ça dans un grand hôtel ou bien, on a rencontré des vrais gens qui nous ont parlé de leur famille, de leur vie, de leur pays, de leur réalité.
Un voyage authentique.
Tranquille.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Le temps passe tellement vite. Léna, pour le mot de la fin, peut-être?
C'est cliché, mais visitez l'Afrique.
Hein. on n'a pas eu le temps de parler de votre livre, mais je tiens quand même à le citer parce que c'est un beau livre, They Call It Africa, We Call It Home, que vous avez écrit avec la fondatrice Diane.
Oui, c'est toute l'équipe et en fait c'est même pas Diane ou moi, c'est vraiment un travail collectif et je pense qu'on n'a aucun mérite là-dedans, à part peut-être Jeanne avoir l'idée de le faire et se dire que je vais le faire avec aucune expérience dans l'édition.
Et vous, Xavier, alors peut-être en deux mots, nous dire quels sont les projets du Black Voyageur?
Donc nous, on a décidé en fait de mettre en place des voyages de groupe où on va justement être en groupe pour aller visiter un pays. Donc on va partir là en Tanzanie et à la fin du mois de l'année, on essaie de mettre en place un voyage au Ghana, puisque c'est l'année du retour au Ghana. Il y a un festival aussi à Frochella, on a parlé du voyage culturel. Donc à la fin de l'année, on va essayer de mettre en place ce voyage. Donc on vous invite.
Ah ben alors on dit quand on y va, hein. Vous avez entendu toute l'équipe. J'ai pris note, j'ai vu qu'ils ont levé leur pouce, voilà. Donc c'est validé. En tout cas, merci infiniment. Je suis très heureuse d'avoir échangé avec vous. Bon, on peut pas discuter de tout, on peut pas aborder tout, mais en tout cas, on a amorcé une petite discussion autour du tourisme en Afrique et du tourisme local. Merci à vous, Xavier.
Merci beaucoup.
Black Voyageur, on mettra le lien, en tout cas, sur notre site et notre page Facebook. Georges, merci infiniment. On vous écoute sur les ondes de RFI, notamment.
Ouais, c'est ça.
Et enfin, merci à vous, Léna. Merci. Pareil, hein, on recommande le livre et on invitera tous nos auditeurs à visiter l'Afrique. De notre pause musicale avec CK DSB et son titre Million, un son qui parle d'amour et d'ambition. On écoute.
Hello la team, d'alors on dit quoi ? Bonjour, je me présente. Alors, je m'appelle CK, d'origine centrafricaine. Je vous présente Million parce qu'on va parler de Million. Million, c'est mon deuxième projet. Si vous accrochez, tant mieux, j'espère. Je suis qu'à mes débuts et j'espère que ça va continuer. En tout cas, merci à toute l'équipe. C'est un plaisir de faire cette petite interview pour vous. Bon courage à tout le monde et bonne écoute surtout.
Bébé, je veux le million, je veux le faire avec toi. Je sais que tu me trouves million, million, bien avant Margiela. Bébé, tu sais pas ce qui se passe dans la tête. Y'a des problèmes et beaucoup d'espèces. Que je t'aime. De ce qu'est-ce t'en dis, hein, je fais ça comme tu veux. Je te l'avais promis en te regardant dans les yeux. L'avenir c'est nous deux, mon futur sera douteux. Sur ma fidélité t'auras aucun doute, babe. Je ferai ce qu'il faut, hein, pour qu'on nage à Dubaï. Peu importe l'amour, t'auras toujours mon time. On se croisera un jour, on n'est pas des montagnes. Faire trembler la concurrence, c'est pas mon style. Je t'ai dit que je veux le million avec toi. Je sais que tu me trouves million.
CK DSB et son titre Million.
Alors on dit quoi ?
Et on continue de vous montrer qu'il est possible de passer de belles vacances à deux pas de chez vous. Pour cela, rencontre avec Marie-Joséphine Paco, blogueuse camerounaise. Bonjour Marie-Joséphine.
Bonjour.
Alors, vous savez de quoi on va parler, bien sûr, de votre blog Chouchoum Paco. En trois mots, pouvez-vous décrire à nos auditeurs l'identité de ce blog ?
Alors, plus précisément, mon compte Instagram est un tout petit peu ce que je considère comme ma vie au Cameroun, comment j'y vis, comment j'y évolue. Un tout petit peu la promotion de l'image de marque du Cameroun.
Instagram, c'est justement votre média de prédilection et vous y postez de très belles photos de votre pays, le Cameroun. Dites-nous à quel type de lieu vous mettez en avant, par exemple.
Alors, à la base, je mets tout type de lieux, mais je suis vraiment beaucoup plus tournée par le tourisme de proximité, aller dans des localités qu'on n'a pas vraiment l'habitude de visiter au grand jour. Il y a des visiteurs qui y vont, mais il n'y a pas vraiment de promotion en ligne dessus. Alors, aller dans des sites pareils, pouvoir rencontrer les autochtones, vérifier s'il y a des sites touristiques agréables, s'il y a une économie locale qui y évolue, et voir justement comment je pourrais apporter le tourisme local aux yeux de mes abonnés, parce qu'en fait, au final, c'est ça. Pouvoir prendre des localités qui sont très belles, qui évoluent très bien économiquement, mais malheureusement, qui n'ont pas la renommée qu'il faudrait, et les ramener au grand jour aux yeux de mes abonnés.
Et là, tout de suite, par exemple, si je vous demande un lieu que vous souhaitez visiter, quel serait-il ?
À Alors, j'aimerais visiter les cases Mousgoum dans l'extrême nord du Cameroun. C'est un endroit extrêmement beau avec des super belles cases colorées qui sont souvent fabriquées par des femmes. C'est un endroit qui mérite d'être visité parce que avec la petite crise sécuritaire au nord, il y a de moins en moins de visiteurs. Mais ça commence à prendre. Alors, personnellement, j'aimerais y aller parce que je suis allée une fois au nord, deux fois déjà. J'ai vraiment aimé le contact avec les gens. Je voudrais repartir pour cette localité que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter.
Vous ciblez les Camerounais pour qu'ils découvrent leur pays, comme vous, vous faites en parlant de cette localité à l'extrême nord du Cameroun. Quel est le profil de vos followers, Marie-Joséphine?
Alors, je ressens un petit peu de tout, mais je pense bien que selon mes statistiques Instagram d'audience, je pense bien, si je ne me trompe pas, que j'ai majoritairement 38% de mes abonnés qui sont déjà Camerounais, ce qui est très bien pour moi de toute façon, parce que ma première cible, c'est les Camerounais. Mm-hmm. Ensuite, ma deuxième audience, c'est la France. Ensuite, les États-Unis, l'Allemagne et la Belgique.
D'accord, donc la cible principale dont on parlait, c'est-à-dire les Camerounais, est bel et bien suiveuse de ce beau blog que vous proposez à travers Chouchoum Paco. Marie-Joséphine, il y a un endroit où nos grands-mères ont un rôle d'entremetteuse un peu particulier. Pouvez-vous nous raconter un petit peu et nous donner le nom de cette localité?
Je pense qu'on parle de Foumbane, qui est l'une des localités que j'ai le plus appréciée au Cameroun et qui était bizarrement mon tout premier véritable voyage touristique. J'y étais allée pour le mariage d'un ami à moi. Mm-hmm. Et chaque fois que je rêvais de Foumbane, et j'avais toujours quelqu'un qui me disait « Ah, mais tu sais, chouchou, franchement, quand tu vas y aller, tu es tellement belle que le chef va vouloir te garder, les autorités vont vouloir te garder. » Je dis « Ah non, ne me faites pas ça, quoi. » Alors, quand je suis allée à Foumbane, je suis allée avec une très bonne amie à moi qui est de la localité et elle m'a emmenée manger chez sa grand-mère et il y avait les deux autres femmes à son grand-père qui étaient là et ses cousins aussi, dont les petits-fils de la grand-mère. Et on a mangé, on causait très bien avec les cousins, ils m'ont fait visiter la zone. Malheureusement, le lendemain, il fallait que je rentre à Yaoundé. Et quand j'étais en route, elle m'a appelé, elle me dit « Chouchou, on est dans les problèmes ». Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Écoute, tu sais, la grand-mère, elle était persuadée que tu resterais une semaine parce qu'elle est venue, elle voulait te présenter son petit-fils. » Je lui dis « Non, mais elle me dit « Oui, oui, elle voulait te le présenter parce que tu es très belle et que son fils était aussi en âge de se marier. » Je lui dis « Ah, oh, mais c'est pas vrai. » Mais c'était une anecdote très amusante. Je n'étais pas particulièrement choquée, voire pas du tout, mais j'ai trouvé amusant.
Et donc, bah, on veut la fin de l'histoire, Marie-Joséphine. Où est le petit-fils?
Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de repartir à Foumbane depuis lors.
Mais ça a été une belle expérience, hein. On donne rendez-vous à tous les célibataires du Cameroun à Foumbane.
C'est une très belle localité. Les gens, ils sont très accueillants.
Merci infiniment, Marie-Joséphine. Et je rappelle donc que nos auditeurs peuvent découvrir votre blog Chouchoum Paco sur Instagram.
Oui.
Merci beaucoup.
Alors, on dit quoi?
Je laisse à présent le micro à Don du Congo Brazzaville. Il nous livre un message d'espoir. On l'écoute.
Bonjour, Jaranjaï. Bonjour à tous les auditeurs d'Alors, on dit quoi? Je m'appelle Don Diesel. Je suis congolais de Brazzaville. Et je suis africain avant tout. Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est cette Afrique qui crée de l'emploi pour la jeunesse africaine, qui pense à l'éducation des jeunes en Afrique. Et c'est cette Afrique qui fera l'Afrique de demain. Parce qu'étant jeune, on a besoin de cette solidarité pour aller de l'avant. Malgré tout ce que l'Afrique est en train de subir actuellement, c'est pas en abandonnant le combat qu'on doit y arriver. C'est pas en traversant la Libye, c'est pas en traversant la Méditerranée qu'on doit y arriver. On doit se battre avec tout ce qu'on a. On doit se battre main dans la main pour aller de l'avant. Et on n'a pas besoin d'utiliser des armes, on a juste besoin d'utiliser notre cerveau. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour avoir une vie meilleure, car chez nous en Afrique, je dirais que c'est le meilleur continent du monde. On a tout ici, et c'est juste en cherchant, c'est juste en travaillant qu'on peut améliorer notre vie. C'est pas en allant traverser cette Méditerranée qu'on pourra y arriver un jour, non. C'est en restant chez nous en Afrique, c'est en travaillant dur qu'on peut modifier notre vie, qu'on peut changer notre vie, qu'on peut vivre la vie qu'on veut vivre, qu'on peut vivre nos rêves et réaliser tout ce qu'on a envie de vivre. On peut le faire en Afrique. Et si en restant solide, en travaillant dur, on pourra voyager dans n'importe quel pays du monde où on veut y aller. Si tout le monde fuit l'Afrique, alors qui doit mener le combat à notre place, qui doit se battre à notre place. On n'a pas besoin de fuir notre continent. On a besoin juste d'être là. On ne doit pas laisser Claudicia mener la bataille lui tout seul. On ne peut pas laisser Alpha Blondy ou Chigenja Fakoli se battre pour cette Afrique tout seul, non. C'est tout enfant de l'Afrique qui doit se battre pour le continent.
Merci beaucoup, Don. Et il a raison, Claudie Sillard n'est pas seule, de même que Tikenja Fakoli, toutes ces personnes qui se battent pour le continent. Donc soyons forts et unis pour nous construire nous-mêmes. Et si vous aussi, vous voulez qu'on écoute ce que vous avez à dire, eh bien, contactez-nous en nous laissant un message sur notre WhatsApp, notre Facebook ou alors notre page Twitter.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Place à la seconde découverte musicale de cette semaine, direction la Gambie avec Shorty Six featuring J-Baze et leur son Bagam.
Hi Jara, I am Shorty Six and I am a Gambian artist.
Salut Jara, je suis Shorty Six et je suis un artiste gambien. Ok, en général, je fais des styles de chansons différents de Bagam, mais pour ce titre, je me suis réveillé avec le sentiment que je devrais faire un morceau sur lequel les gens pourraient danser et faire la fête. Donc en gros, je raconte l'histoire d'une fille qui danse tellement bien qu'elle cause des problèmes autour d'elle, parce qu'elle rend les gens fous et que le genre de danse qu'elle fait est unique en son genre. Bagam, c'est le nom de la musique et c'est également le nom de la danse que j'ai créée. Je vous laisse écouter mon son et un grand merci à RFI.
Thank you, and I would really love to have my song played on your radio.
Maybe just bagam, bagam, bagam. Maybe just bagam, bagam, bagam. Maybe just. I told that girl I just wanna play right now. The way you shake your booty make me lose my mind now. Drop it to the floor, I wanna see you wind up. Twerk it till six girls line up. Yeah, because it's smooth, then I you because it cow. When me I'm a friend, be my whiny 100 town. Anti-crime, so friendly, call me blind, you're a cow. Yeah, yeah, baby. Come spend the night with me, yeah. Shakira, Shakira, Shakira. She's shaking her waist like a killer. She's one of a girl like Mona Lisa. You're killing this room, mama mia, yeah. Wind your body to the best life. I don't even wanna waste time. Do it for me on the FaceTime. Fine feelings, fine waistline. Baby, just bag up, bag up, bag up. Baby, just bag up, bag up, bag up. Just bagam, bagam, bagam. Baby, just bagam, bagam, bagam. Baby, just
bagam. Yeah. Make it all day, nakam. So fine, sexy, girl, I want some. Fatumata, bagam, bagam, bagam. Baby, girl, bagam. Aminata, bagam. My itse, just bagam. Baby, Aisha, just bagam, bagam, bagam. Baby, girl, bagam.
C'était Shorty Six featuring J-Baze, Bagam.
Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi ? Met fin aux infox, vous savez, ce sont ces fausses informations relayées massivement sur Internet, mais qui ne sont pas vraies. Valdez, qui est journaliste à Africa Check, un site de vérification de fausses nouvelles, est avec nous. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
La communauté musulmane du monde entier a récemment célébré la fin du Ramadan et il y a eu justement une rumeur selon laquelle le jeûne permettrait de guérir toutes les maladies.
Oui, et ce n'est pas la première fois que cette fausse rumeur circule sur Internet et elle a souvent tendance à apparaître durant la période du Ramadan. Et donc, en mars 2019, le site Elicheano Féminin a publié un article qui indique en effet que le jeûne permet de guérir toutes les maladies. Et dans cet article, on peut visionner une vidéo dans laquelle un certain Thierry Casasnovas, qui est un vidéaste français et adepte du crudivorisme et du jeûne, fait donc valoir le même argument. Thierry Casasnovas, qui produit régulièrement des vidéos sur le sujet et qui est très suivi sur les réseaux sociaux, soutient donc qu'il est prouvé que le jeûne est un remède pour guérir toutes les maladies.
Alors, sur quoi vous fondez-vous pour dire que cette rumeur est fausse, Valdez ?
Eh bien, nous avons consulté un rapport publié en 2014 par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale en France. Et le dit rapport évalue en effet l'efficacité du jeûne comme pratique à visée préventive ou thérapeutique. Et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale en France explique dans ce document que même si le jeûne est de plus en plus pratiqué par les Français et que les personnes qui le pratiquent sont satisfaites, une satisfaction n'est pas une preuves d'efficacité. Les preuves d'efficacité et de sécurité manquent pour conclure positivement que le jeûne a des vertus thérapeutiques, précise le rapport qui ne recommande donc pas le jeûne pour traiter un problème de santé, compte tenu des données de la science à l'heure actuelle. Les indications thérapeutiques du jeûne relèvent aujourd'hui d'un mélange d'empirisme et de croyances sans vérification sérieuse, même si des observations animales et cliniques laissent paraître de belles promesses, expliquent encore les auteurs du rapport qui ajoutent que les études disponibles actuellement sur l'intérêt thérapeutique du jeûne sont trop peu nombreuses et souvent de mauvaise qualité méthodologique. Ainsi, bien que des présomptions d'effets bénéfiques du jeûne existent, il est essentiel, Diarra, de démontrer scientifiquement par de nouvelles études plus adéquates et plus méthodologiquement solides, conseillent encore les auteurs du rapport. Ici à Dakar, le professeur Abdoulaye Ley, qui est spécialiste en endocrinologie, métabolisme et nutrition, est allé dans le même sens que ce rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Le professeur Ley nous a tout de suite dit qu'il n'a pas encore vu un miracle réalisé avec le jeûne en tant que remède. Pour ce spécialiste, il n'y a donc actuellement aucune preuve scientifique démontrant que le jeûne est un remède permettant de guérir une maladie bien identifiée. Mais cependant, il relève que le jeûne peut avoir des vertus qui toutefois ne font pas de cette pratique un remède.
Intéressant. Et du coup, quelles sont ces vertus ?
Pour le professeur Ley, la pratique du jeûne participe à la préservation de la santé, ne serait-ce que du fait que notre mode de vie actuel dont l'alimentation est généralement caractérisée par des excès de toutes sortes qui sont source de pathologies cardiovasculaires et métaboliques, ce qui en des termes simples signifie que le jeûne a des vertus en ce sens qu'il permet de reposer le système digestif, de régénérer les cellules, d'équilibrer l'organisme, d'améliorer le système immunitaire et donc d'éliminer les toxines. Pour le diététicien Siré Madifa, que nous avons aussi consulté pour nos recherches ici à Dakar, le jeûne a un effet bénéfique contre certains troubles métaboliques tels que le surpoids, l'augmentation du taux de cholestérol, des maladies qui pourraient provoquer d'autres complications.
Donc, il serait bien d'observer le jeûne de temps en temps.
Si vous le souhaitez, Diarra, mais les spécialistes conseillent de consulter votre médecin au préalable.
Merci Valdez.
Merci Diarra, à la semaine prochaine.
Alors, on dit quoi sur RFI?
Anna nous a rejoint pour sa rubrique culture. Bonjour Anna.
Bonjour Diarra.
Alors, qu'avez-vous d'intéressant à nous proposer aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui Diarra, nous allons parler de la promotion de la langue soninké. L'APS, Association pour la promotion de la langue et la culture soninké, créée par M. Dadi Soumaré, œuvre depuis 1982. La jeunesse soninké ainsi que les plus anciens travaillent sur des initiatives remarquables au sein de l'association pour la promotion de cette langue.
C'est une très bonne initiative.
Absolument, Diarra. De jeunes membres tels que la malienne Awa Touré n'hésitent pas à rajeunir les méthodes du groupe en invitant des influenceurs aux différents événements par exemple. De plus, trois membres de cette association ont publié tout récemment des ouvrages valorisant la langue. Soninko, Grain de millet de Tiernu Mohamedou Tandia, Tankerege Dodigan Diraron Routou, 52 concepts, 52 semaines de Fisso.com, Fonan Khayaroun d'O Safarié, Jeunesse et Immigration de Bandjougou Dramé. Disponibles en ligne, je vous invite donc à vous les procurer dès que vous pouvez.
Merci Anna.
Au plaisir Diarra.
Clap de fin pour notre émission Alors on dit quoi ? Merci infiniment de nous avoir suivis. N'oubliez pas, chaque semaine, nous pouvons interagir ensemble. Envoyez-nous vos initiatives, vos commentaires, vos suggestions, vos découvertes musicales. Dites-nous aussi sur quoi vous avez envie de débattre et quels sont vos coups de cœur, quels sont vos coups de gueule. Et n'oubliez pas de nous laisser un message sur le répondeur d'Alors on dit quoi au 33 647 740 742. Merci infiniment à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Dibril, Mariam et Guillaume. Retrouvez dans un instant le journal de RFI. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. Salut, Ubno Noha Gongol, à bientôt.